France Musique. Musique et moi.
Daniel Auteuil.
Priscille Lafitte. France Musique.
J'ai honte d'une autre Isabelle. De quoi t'occupes-tu d'user un reste de vertu contre cette rebelle? La perfide se rit de toi, plus elle t'encourage, sa lèvre même est un outrage. Viens, gagnons notre toit. Tant est de fuir l'amour, Géronte, et son arc irrité. L'amour, au déclin de l'été, ni la mer ne s'affronte. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours, au crépuscule de mes jours. Rejoignez s'il se peut l'aurore des beaux lieux où le dieu du vin avec l'amour tient son empire. Le temps qui me prend par la main m'avertit que je me retire de son inflexible rigueur. Tirons au moins quelque avantage qui n'a pas l'esprit de son âge. De son âge à tout le malheur, laissons à la belle jeunesse ses folâtres emportements. Nous ne vivons que deux moments, qu'il en soit un pour la sagesse. Quoi pour toujours vous me quittez, tendresse, illusion et folie, don du ciel qui me consoliez des amertumes de la vie. Si vous voulez que j'aime encore, je le vois bien, cesser d'aimer et d'être aimable, c'est une mort insupportable. Cesser de vivre, ce n'est rien. Ainsi je déplorais la perte des erreurs de mes premiers ans et mon âme au désir ouverte regrettait ses égarements. Si vous voulez que j'aime encore, l'amitié vint à mon secours. Elle était peut-être aussi tendre, mais moins vive que mes amours. Touché de sa beauté nouvelle et de sa lumière éclairée, je la suivis mais je pleurais de ne pouvoir plus suivre qu'elle.
Daniel Auteuil, comédien, réalisateur, chanteur, et l'invité de Musique et moi ce matin. Bienvenue.
Bienvenue. Oui, je suis bienvenu. Je suis content d'être là. Oui,
merci toi. À vous d'être présent ce matin dans les studios de France Musique. Nous venons d'entendre coup sur coup deux textes. L'un que vous avez lu en studio de
non,
Paul
Jean. Non, je n'ai pas lu, madame, que j'ai c'est dit, que j'ai dit, sans le lire.
Écrivain, poète, Paul Jean Toulet, qui était à cheval entre le 19e et le 20e siècle, un inventeur des contre-rimes.
Oui, contre-rimes, ce qui fait que, si vous voulez, si j'avais été un compositeur professionnel et chevronné, jamais je ne me serais attaqué au texte de Paul Jean Toulet, parce que il n'y a jamais les mêmes pieds dans chaque truc, donc il fallait être tout à fait inconscient pour mettre en musique ce Paul Jean Toulet. J'imagine que c'est pour cela que personne ne l'a jamais mis en musique, donc c'était ma chance.
Et ensuite, vous avez chanté Voltaire.
Voltaire, oui. Ce texte magnifique, qui je m'étonne, n'a jamais été repris et mis en musique par ceux qui au XXe siècle mettaient en musique les grands auteurs. Brassens ne l'a pas repris, Ferré non plus, ni Ferrat. Donc, si vous voulez, dans le patrimoine français, j'ai la chance de redécouvrir des trésors que d'autres n'ont pas pu trouver.
Oui, ce texte qui sonne avec une grande modernité, on meurt deux fois, je le vois bien, cesser d'aimer et d'être aimable, c'est une mort insupportable, cesser de vivre, ce n'est rien.
Oui, oui, ça m'a parlé, oui. Ça a parlé au vieil homme que je commence à être.
Alors j'aimerais savoir, comment choisissez-vous vos textes? Y a-t-il des questions de sonorité qui vous intéressent chez l'un et chez l'autre, chez Toulet et chez Voltaire?
Il y a d'abord, dans un premier temps, si vous voulez, il y a d'abord l'émotion que cela me procure. C'est-à-dire, je suis les mots et la musique sont les deux éléments dans lesquels j'ai baigné toute ma vie. D'abord la musique, puisque mes parents étaient chanteurs d'opéra, que je suis né dans un opéra, qu'à 4 ans j'étais sur une scène déjà. Et les mots qui sont, par force, je veux dire, les ustensiles utiles de ma profession d'acteur. Donc, il faut absolument qu'il y ait entre une émotion et une fluidité. Je suis sensible à une fluidité dans l'écriture qui fait que mes harmonies, mes accords puissent entrer. Voilà. Mais avant tout, si vous voulez, c'est l'émotion que le texte me procure et ce sentiment de... Ça me donne l'impression que ce qui a été écrit, ça a été écrit la veille et que ça a été écrit pour moi et pour nous tous, quoi.
Et alors, est-il plus satisfaisant de faire sonner un texte à blanc ou de le faire chanter ?
De le faire chanter, car c'est très très difficile. La poésie, j'ai toujours considéré que la poésie, c'était bien pour soi-même, à lire chez soi. Et il faut beaucoup beaucoup de talent pour la dire. Il faut presque des interprètes très lyriques, je pense à Gérard Philippe ou à Reggiani ou à Jean-Louis Trintignant, c'est-à-dire il faut une musicalité particulière pour dire ces textes-là. Et souvent, ce qui m'a encouragé à mettre de la musique sur ces textes, c'est que les auteurs disent paroles sans musique, voilà. En fait, ils nous poussent au crime.
Alors Daniel Auteuil, nous avons 1h30 ensemble pour comprendre votre rapport à la musique, avec des parents chanteurs donc, le décor est planté, vous avez grandi sur les planches et connaissez tout des coulisses d'opéra. Alors que retenez-vous de cette formation d'enfant de la balle? Est-ce une émotion? Est-ce une technique? Nous allons convoquer de grandes voix ce matin, Adrien Legros, Maria Callas, Placido Domingo, Enrico Caruso. Mais commençons par entendre votre référence dans le registre de la chanson, Marcel Mouloudji.
L'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Oh, le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Une chanson qui date de 1954, Marcel Mouloudji. Est-ce qu'il y a un phrasé peut-être qui vous parle?
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans une versification classique du début du XXe siècle, une prosodie qui fait que rien vient nous heurter et que on suit les idées déjà dans le rythme des mots et plus la musique. Mouloudji était un auteur-compositeur. Il a beaucoup mis en musique et chanté les poètes. Et donc, si vous voulez, je suis en fait très attaché. Je m'aperçois très attaché à ces auteurs-compositeurs je suis attaché à tout simplement à la chanson française, quoi. Même celle d'aujourd'hui, elle me plaît beaucoup.
Et une prosodie qui est proche de celle de Charles Aznavour.
Il a quelque chose dans le phrasé, dans la voix. Mais vous savez, c'est comme aujourd'hui quand on écoute des chansons d'aujourd'hui, c'est toutes les mêmes orchestrations et on a l'impression que il y a une espèce de mood dans lequel tout le monde. C'était pareil à l'époque, quoi. Il y avait des orchestrations qui étaient à la mode. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que ce timbre continue à vous poursuivre aujourd'hui?
Le timbre de la voix de Mouloudji, c'est... c'est cette légèreté. C'est à la fois cette légèreté et à la fois cette nostalgie. Il nous dit qu'il est triste, mais sans être lourd. Voilà.
Ce sont des années où en Algérie résonne cette musique.
أسطوانة الدنيا الشيخ الحاج محمد العنقا نزلت لنزل نلقاكم للدار لازلت لنزل نلقاكم للدار وانتم يا اهل الفقر نلطان جفاكم لازلت لنزول نلقاكم للدار وانتم يا الفطن طالج فاكم. حالتنا حالة الفتن في شد غيال وانتو مسالين في طيب نكون في حق الصالحين دشي عيب وعار في حق الصالحين دشي عيب وعار جري والعتق مني راعي مرضى يطول حسابنا يطول حسابنا يوم الموقع في الحشر معاكم يطول حسابنا يوم الموقع في الحشر معاكم يا من قلبك ممحور وقوة درك دخلاني زور الولي سحنون تبقى من كل حال اقصد سيدي سحنون مول السر الربان صدمو للشيعة تغنم عنو صدوان حبو خلق الشيات ربي بسط الكواني ليه كرايم عظمى ما يحصيه الانسان له برهان غزير بدن الله القادر سلك من يسير من بلدان القرى يا ندهت كل حكيم لله بالك تنسان يا من قلبك محفور تنساني لله بجدك رسول الله بك عظيم الجاه عمرت من الأكوان وجهك من صابر طال تبرد هذا النهار تبرد نيران الشوق بوصلك يا معشوق سنهد الدور نروى ونروح آمي ندي حملي موسوك من تبره يا من قلب
Nous sommes en 1960, aux côtés de Mohamed El Anka, ouais. Maître du Shaabi algérois. En 1960, vous n'étiez...
Ah non, on est parti déjà.
Vous étiez déjà parti.
Ouais, on est parti parce que c'est, si vous voulez, c'est pas... C'est une période un peu troublée quand même en ce moment-là, l'Algérie. Quoi. Ouais. Et je sais pas, je comprends pas les paroles, mais il y a une telle douceur et une telle humanité dans ce chant que... que, oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il vous dit. En tout cas, c'est, on sent que c'est du vécu, hein, ce qu'il chante.
Quel souvenir sensoriel avez-vous gardé d'Alger?
Alors, c'est à la fois d'avoir entendu ces harmoniques, c'est quoi les instruments? C'est une forme de guitare
Alors là, il joue une mandole, ouais. Mohamed Al-Anka, qu'il a fait construire, fabriquer spécialement pour lui. C'est un luthier italien qui vivait alors à Alger, qui lui a fabriqué cet instrument.
En tout cas, déjà ces sons-là. Ensuite, je suis enfant, mais le souvenir de promenades dans le jardin d'essai avec mon père ou sur ses épaules sur le port, une chaleur, les gens. La foule, les pâtisseries, des choses très douces me reviennent de cette période. Il paraît que j'étais pas du tout sujet au climat, que j'étais tout le temps malade et que je supportais pas le climat, me disait ma mère. Moi, je me souviens pas d'avoir été malade, je me souviens juste d'avoir été petit et d'avoir été, et pour toujours, un méditerranéen, voilà. Je sais que je viens de là, quoi. Donc,
vous y êtes retourné?
Non, jamais. Mais je me suis rapproché le plus que j'ai pu de la Méditerranée.
Vos parents y étaient parce qu'ils chantaient?
Mes parents étaient chanteurs d'opéra et d'opérette et ils faisaient les saisons d'hiver. Mon grand-père aussi était chanteur là-bas. Et en fait, toute ma famille, je suis issu d'une famille de chanteurs, mes oncles, tout le monde était dans l'opéra.
À l'Opéra d'Alger.
À l'Opéra d'Alger et ensuite à l'Opéra d'Avignon et ensuite dans tous les opéras en France. Quoi, voilà. Ouais. Oui, encore une fois, moi-même, j'ai été à 4 ans le fils de Madame Butterfly sur scène.
Vous avez figuré comme petit garçon dans Madame Butterfly. Vous n'étiez pas dans les jupes de Maria Callas, mais de qui?
Je me souviens plus. Je sais plus. Mais en tout cas, j'étais dans les jupes de la chanteuse et elle me serrait. Et en réécoutant la Callas avec le génie de son interprétation, je me dis que quand t'as 4 ans, et après plus tard, je l'ai fait à 6 ou 7 ans, jusqu'à 10 ans, on reçoit cette éducation, c'est-à-dire d'être sur scène et que quelqu'un vous chante cet air sur la mer calmée, il y a forcément quelque chose qui a dû me marquer pour que tant d'années plus tard, et tout au long de ma vie, chaque fois que j'écoute cette chanson, cet air-là, je sois bouleversé. Souvent, moi, si vous voulez, les œuvres d'art, les tableaux, les musiques, les chansons sont bien entendu importantes par la création même de l'œuvre, mais c'est ce que la vie nous en fait faire, quoi, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit. C'est la leçon qu'on en tire, c'est ce que ça nous apporte. Ces premières écoutes font que on sera l'homme que l'on est ou l'artiste que l'on est. Voilà, c'est fort pour ça, quoi, la musique.
Mais est-ce que vous gardez quand même des vibrations, des sensations de l'enfance dans ces coulisses d'opéra, des odeurs, des ambiances, des préparatifs?
Oui, ces souvenirs, si vous voulez, mes jours de repos d'école étaient, j'allais pas au cinéma, je traînais dans les théâtres, dans le théâtre pendant que mes parents répétaient, c'est de me perdre dans les sous-sols d'un théâtre. Un théâtre, un opéra classique est fait comme des navires. Et il y a autant de sous-sols qu'il y avait d'étages au-dessus pour l'acoustique. Et plus on descendait, et plus je descendais tout seul, j'avais pas le droit, je me perdais dans ces sous-sols du théâtre. D'abord il y avait la scène, et puis ensuite une autre scène, et puis une autre scène. Et plus on descendait, et plus on arrivait vers des lieux, je sais pas, des c'était où mon imagination travaillait. En tout cas, c'est pour moi, c'est des lieux qui ont développé mon imaginaire à un point incommensurable. Voilà, c'est ça. Je suis encore tout ému de la Callas.
Thank you. fille charmante, viens de nous demander si tu n'étais pas là. Jupe bleue et natte tombante, ce doit être Michaela.
Alors, autant quand je fais le fils de Madame Butterfly, j'ai pas conscience encore que je suis sur une scène et qu'il y a un plaisir. Ou, c'est juste quelque chose d'organique et de. Je suis cloué par l'émotion de la chanteuse. Autant là, je suis un peu plus grand et j'ai conscience que je suis sur une scène et ça me plaît. Et j'ai conscience que c'est trop court. Et que dès que je suis sorti de cette scène, je suis frustré. Et je pense que c'est de cette époque que me vient le désir de jouer des grands rôles.
Daniel Auteuil, vous avez même reconnu là à l'instant l'endroit précis où il fallait entrer,
Il
fallait se mettre à chanter.
Oui, parce que je l'ai fait ça de 7 ans jusqu'à 14 ans, un truc, j'ai joué ça souvent.
Et vos parents chantaient dans ce carnet?
Oui. Mes parents étaient choristes. Et mon père avait un petit rôle il faisait un contrebandier.
Qu'est-ce que vos parents, vos oncles, vous disiez, vous ont transmis sur le chant? Qu'est-ce qu'ils vous en disaient?
C'était, ils étaient sensibles à une... sans réellement l'exprimer, mais à une simplicité, à une rigueur et à une sincérité de l'interprétation. Et ils ne s'en laissaient pas compter par ceux qui faisaient de l'esbrouf avec la voix ou qui n'étaient pas sincères. Voilà. J'ai appris de mon père, pour mon métier d'acteur, une rigueur et une simplicité et une sincérité et une vérité qui ne devait pas déborder d'un certain cadre, quoi. Enfin, une rigueur, voilà. Mon père était quelqu'un de rigoureux et d'extrêmement timide aussi, qui, une fois sur scène, s'exprimait avec vigueur, voilà.
Et il travaillait beaucoup leur voix à la maison?
Non, parce que c'est, il travaillait la voix au théâtre. Il y avait ce qui s'appelait l'après-midi des leçons, c'est-à-dire que pendant plusieurs heures, il y avait une répétitrice et il chantait. Il travaillait au théâtre, ça se faisait au théâtre.
Avec une chef de chant.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ce sont aussi des années où vous vous êtes mis à la trompette.
J'ai fait ça pour épater un cousin qui faisait toujours pom, 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 avec sa bouche. Et quand je lui dis qu'est-ce que tu vas faire comme instrument, il m'a dit moi je sais pas. Et j'ai dit moi pour l'épater, je lui dis de la trompette. Je savais pas que c'était si difficile. C'est un instrument extrêmement difficile et ingrat. Voilà, j'ai travaillé pendant quelques années comme ça, le solfège et la trompette. J'aurais dû, si j'avais su, mais je savais pas qu'un jour je chanterais, j'aurais dû faire du piano ou tout de suite de la guitare. Ça m'aurait fait gagner du temps. Parce qu'à part Armstrong, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à chanter et jouer la trompette en même temps.
Depuis 9 ans, et plus dans l'enfort scellé, mon vin d'un contour d'âme a lentement mûri. Il faut cendre d'acanthe et de myrte fraîche.
Anise brûle à l'autel et d'un pied diligent tous viennent couronnés de verveine pieux. Et mon humble maison étincelle joyeuse au reflet des coupes d'argent. Ô Phyllis, c'est le jour de Vénus et je t'aime, entends-moi. Téléphus brûle et soupire ailleurs, il t'oublie et je t'aime, et nos jours les meilleurs vont rentrer.
Daniel Auteuil, il y a plusieurs voix que vous souhaitez entendre ce matin. Par exemple, vous m'avez parlé de la soprano coloratour Maddy Mesplé, qui avait marqué toute une génération par son timbre d'une légèreté insaisissable. Et puis, la basse, Adrien Legros, qu'on a rarement l'occasion d'entendre sur France Musique. Donc, oui. Je saisis cette occasion dans une mélodie de Reynald Douane.
Mais que j'ai connu à l'opéra d'Avignon, dont le frère était Monsieur Sorgel. C'était son frère, il avait inversé son nom. Et je me souviens de Adrien Legros, c'est ça ?
Adrien Legros.
Ah, je me souviens de lui parce que... il jouait Faust et il avait une très belle plume sur son chapeau et j'avais tiré la plume et je m'étais fait gronder par lui. Et comme il était un diable, j'étais petit, ça m'avait fait peur que le diable me gronde. Donc voilà, je me souviens d'un diable qui fait peur, mais qui chantait bien.
Lorsque vous convoquez ce souvenir d'enfance à l'opéra, il y a les souvenirs des sous-sols. Les souvenirs des costumes.
Les costumes, les souvenirs de vagues de, les vagues de danseuses, de choristes qui descendent parce qu'on les appelle en scène et moi je suis dans les escaliers à attendre et je vois passer ma mère dans cette vague de joyeuseté, de couleurs, de maquillage. Lachner, de lèvres rouges, de joues très roses, de yeux très faits au noir, et de ce parfum de femme qui descend dans les escaliers et qui vont monter en scène. Et tout d'un coup, après cette vague, le silence et le petit garçon qui reste assis sur les marches et qui attend que sa mère remonte, quoi. Je me souviens d'être dans la loge de mon père, de le voir se préparer pour un rôle avec du crêpé. Le crêpé, c'est une espèce de poil dont on fait des fausses moustaches, des cheveux. Le regarder se maquiller, le voir fumer, tout d'un coup il me passe sa cigarette, c'est la première fois que j'ai une cigarette dans les mains, et parce qu'il a besoin de faire quelque chose avec du maquillage, et puis tout d'un coup il se regarde dans la glace, et ça y est, sur une touche finale d'un point qui se met sur un point de crayon sous l'œil, tout d'un coup il est prêt, il reprend sa cigarette, il écrase, il m'embrasse, il descend en scène. Et encore une fois, je suis abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des souvenirs à la fois de pas pour longtemps, mais ils vont s'amuser sans moi. De la même façon que un peu plus tard, quand ils partent, quand on est à la maison et qu'ils vont travailler, j'ai jamais compris pourquoi mes parents ne voulaient pas que je fasse ce métier, parce que ils partaient en riant travailler et moi je dormais pas pendant qu'ils étaient au hôtel, j'avais peur, et quand ils revenaient, je faisais semblant de dormir, et quand ils revenaient, ils riaient encore. Et je comprenais pas pourquoi mes parents ne voulaient pas que je fasse un métier dans lequel on riait en partant, on riait en rentrant.
Et vous vouliez être chanteur d'opéra ?
Je voulais faire du théâtre. Je voulais faire du théâtre. L'opéra, vers 16-17 ans, quand j'écoutais la musique dans la rue, c'était du rock'n'roll, quoi. C'était donc, je m'apercevais qu'il y avait une dichotomie entre ce qui se passait dans ces lieux fermés, sacrés. À l'époque, l'opéra n'était pas à la mode encore. C'était pas devenu un truc. C'était un art très populaire pour les familles, et un public qui était fait que de vieux et d'enfants. C'était les grands-parents qui amenaient les enfants. Donc, si vous voulez, ça formait quand même des générations de mélomanes. Les souvenirs de dimanche soir après la dernière représentation où tout d'un coup, le lendemain, c'était l'école et c'était la réalité, quoi. Donc, c'était autre, voilà. Et puis, c'est qu'est-ce qu'ils font tes parents? J'ai dit, ils font du théâtre. Oui, mais dans la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent. Mais c'est quoi répéter? C'était expliquer ce qu'était ce métier, quoi, à ces futurs jeunes adultes.
Vous vouliez plutôt être dans la comédie musicale, en fait?
Peut-être.
Version française,
ah oui, de la comédie musicale que je jouais. Et là, je me retrouve à 22 ans dans cette comédie musicale, Godspell, mise en scène par les Américains, à faire tout d'un coup le même métier que mes parents. Donc je suis assez fier et heureux. Je gagne ma vie en chantant. Et ça ne me déplaît pas. Là, dans les chœurs de Jour et Nuit, il y a deux voix qui essayent de passer au-dessus et qui passent. C'est la voix de Dev et d'Armand Altaï, qui étaient c'est les deux voix fortes de cette comédie musicale.
Vous gardez de cette expérience une énergie sur scène?
Je garde.
Vous l'avez joué de nombreuses fois, vous les chantez.
Oui, on l'a joué plus de 300 fois. Je garde le souvenir d'une amitié très forte entre ces 10 chanteurs acteurs. Après que la pièce était terminée, on s'est vus tous les soirs pendant plus d'un an. C'était tellement fort ce qu'on avait vécu. Nous étions tous très jeunes et c'était notre première expérience très professionnelle et à la fois la rencontre avec le succès. Donc on commençait avec toutes les grâces, quoi. C'est-à-dire qu'on commençait avec la qualité et on connaissait le succès. Donc on avait déjà des repères pour la suite.
Et puis être comédien, chanteur comme ça et danseur, ça permet de toucher à tous les arts. On a l'impression de toucher à l'art dans tout ce qui est complet.
C'est au conservatoire on apprend l'escrime, on apprend à chanter, on apprend à danser, on apprend à parler. C'est aux États-Unis, en Angleterre, partout. Quand les Américains sont arrivés, une fois qu'on a été choisi, on était 1200 et ils en ont choisi 10. Une fois qu'ils nous ont choisi, ils nous ont demandé combien d'instruments jouez-vous chacun en 1970. J'ai dit vaguement, mais vraiment très vaguement, de la trompette, un jouet un peu de la guitare. Donc, si vous voulez, il y avait, par rapport à aujourd'hui, il y a eu d'énormes progrès. Enfin, c'est-à-dire que musicalement, quand on voit bien ces émissions populaires, ces crochets, on voit quand même qu'il y a une évolution. Les gens jouent des instruments, ils chantent et tout, donc on a rattrapé plus ou moins le niveau moyen des Américains ou des Anglais, qu'on s'y est mis, quoi.
Il y a une façon quand même totale d'engager son corps, ouais, sur scène.
Mais déjà, si vous voulez, je me souviens quand on écoutait le disque originel de gospel, ou même quand on écoute les comédies musicales américaines, ils ont une façon de s'engager, ils s'en foutent de comment ils chantent. Ils chantent. C'est pas beau, mais c'est assumé. Et c'est nourri, c'est interprété. Et oui, c'est ça, c'est assumé. Et c'est ça. C'est ça qu'on savait pas faire, quoi. C'est-à-dire que on essayait de chanter alors qu'il fallait être.
Thank you.
Un extrait de la messe pour le temps présent, composition de Pierre Henry pour le chorégraphe Maurice Béjart en 1967.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le comédien, réalisateur, chanteur Daniel Auteuil est dans les studios de Musique et moi ce matin et vous étiez
dans la
en
salle.
Avignon.
J'étais dans la salle et j'ai assisté à la création de ce messe pour un temps présent de Maurice Béjart, moi qui étais habitué au classicisme des danses des opéras avec les tutus et les c'était très joli. D'ailleurs, tout d'un coup on voit apparaître sur une musique très surprenante une autre façon d'interpréter la danse, une façon de libérer son corps, avec quelque chose de très fort physiquement, de presque sensuel, de même de sensuel. Et c'est pour le jeune homme que je suis, c'est un bouleversement. Je n'ai plus jamais pu regarder après ça la danse de la même façon. Ça m'avait bouleversé. Je suis quelqu'un j'accepte toujours l'ancien et le nouveau, mais quand tout d'un coup le classicisme et le modernisme se rejoignent pour créer quelque chose qui va être de toute éternité de notre temps, d'avoir le sentiment d'assister à la création de quelque chose qui deviendra intemporel, c'est bouleversant. Et j'avais, en voyant ce spectacle-là, j'avais vraiment l'impression d'assister à quelque chose d'unique. Et le temps a passé, et ça reste unique. Ouais.
Oui. C'est intéressant que vous disiez que c'est intemporel, parce que, précisément, Maurice Béjart disait ensuite qu'ils avaient arrêté de faire tourner ce spectacle. Au bout de 2-3 ans, le succès était immense, évidemment. 1 million d'exemplaires vendus en 3 mois, je crois, de cette musique de Pierre Henry. Et ils ont arrêté net en plein triomphe parce que, justement, Béjart explique que ce ballet est tellement lié à une certaine époque qu'il ne doit pas survivre à l'époque. Il s'est brûlé lui-même. Ce sont ses mots.
Oui, peut-être. Mais Il n'empêche que quelque chose a été quelque chose est lancé qui fait qu'on pourra plus revenir en arrière et après on a vu toutes les générations de nouveaux chorégraphes. Il a ouvert une brèche, voilà, de la même façon que dans mon métier, quand Belmondo est arrivé, on n'a plus jamais joué pareil derrière en France, ou quand De Niro, Pacino sont arrivés. Vous voyez, c'est des gens, des artistes novateurs qui créent de nouvelles voix. Et d'assister à ça et d'en être conscient, je suis assez fier d'avoir su reconnaître ça, quoi, voilà.
Parce que vous étiez ouvreur
Festival d'Avignon. Oui, entre deux travaux, je gagnais ma vie en faisant d'autres choses.
Donc c'était avant de vous lancer dans les comédies musicales, ouais. Donc vous avez pu voir aussi les réactions du public.
Le public était, il y avait souvent à Avignon. Avignon est un festival de création avec parfois des choses qui heurtent ou qui heurtaient. Là, il y a eu. Il y a eu toujours les grognons qui trouvaient que c'était pas comme avant, mais dans l'ensemble, j'ai le souvenir d'un énorme triomphe de quelque chose qui soulevait les gens, et pour avoir eu la chance de jouer plus tard dans la cour d'honneur, Molière, j'ai su reconnaître aussi ce qu'était un triomphe.
Par la suite, l'opéra finit par vous rattraper.
Perdonatemi pietà, o frate.
Le duo entre Alvaro et Carlo dans l'opéra de Giuseppe Verdi, La Forza del Destino, qui a donc inspiré au compositeur Jean-Claude Petit le thème qu'on entend pour le film Jean de Florette,
oui.
Qui vous a valu à vous, Daniel Auteuil, un César du meilleur acteur en 87.
Et plus que ça, quoi, ça m'a valu, si vous voulez, la reconnaissance toute une profession, ça, de la presse, enfin, ça a été un changement dans ma vie, le triomphe de ce film.
Est-ce que l'opéra de Verdi a infusé ces films aussi, Manon des Sources? Est-ce que vous avez écouté l'œuvre de Verdi pour...
Oui, non, je ne l'ai pas écouté pour... Mais non, je l'ai pas écouté pour.
Vous saviez à l'avance que Verdi serait, ce thème de Verdi serait le fil directeur de.
Non. Et même, je vais vous avouer une chose, je n'étais pas sûr de très bien connaître ce thème, et j'ai félicité Jean-Claude Petit pour cette musique, et qui me très modestement m'avait dit, oh, tu sais, j'y suis pas pour grand chose. Et c'est après que je me suis aperçu effectivement que c'était voilà. Donc on apprend à tout âge.
Vous, quel est votre rapport au chant, à la voix? Vous avez pris des cours, Daniel Auteuil?
Alors, pas trop, mais comme encore une fois à 7 ans, je chantais dans Carmen, le chœur des enfants. Chaque fois qu'il fallait un enfant dans une opérette, j'étais là. Après les comédies musicales, je dirais que j'ai appris en pratiquant, quoi. J'ai appris de façon autodidacte en apprenant. Voilà, l'art du chant, ça prend effectivement si vous voulez maîtriser les grands airs, les grandes techniques. Moi, je suis plutôt un auteur, compositeur, interprète qui continue par la musique ma parole. Vous voyez, et c'est ça que j'ai compris.
Vous n'avez pas appris à projeter la voix, à trouver des
résonateurs. Si, j'ai appris un peu, mais j'ai fait beaucoup de théâtre comme acteur. Donc, quand on joue devant 2500 personnes dans la cour d'honneur, voilà, on apprend à projeter la voix. Mais j'aimais pas ma voix quand je la projetais, justement, quand je la sortais de quelque chose qui n'était pas, qui me ressemblait pas, qui était pas une, qui ne naissait pas d'une émotion particulière. Mais ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre.
Vous avez cherché, même pour essayer chez vous, à chanter façon opéra?
Oui, j'ai essayé.
Façon lyrique?
Oui.
Et ça donne quoi?
Vous ne le saurez jamais. Il vaut mieux pas.
C'est peu de choses, mais si vous voulez bien.
Oui, c'est différent. Mieux, non?
Plus clair, oui. Oui.
La dernière fois, ça ne vous avait pas frappé?
Si, mais ça met un certain temps. Ça n'avait pas l'air d'être le moment de vous en parler. C'est en y repensant.
Bon, on reprend? Ça vous convient?
Oui.
Dites.
Vous ne l'avez pas joué un peu vite?
Si. Vous voulez l'entendre à sa vitesse?
Oui, si ça ne...
Thank you.
Alors ?
C'est très beau.
Vous partez déjà ?
Oui.
Vous avez d'autres rendez-vous ?
Non, mais je dois vous laisser travailler. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Salut.
Continue.
Reprends 3 avant 6.
Du film Un cœur en hiver de Claude Sautet en 1992, rythmé par le trio de Maurice Ravel en la mineure. C'est votre voix qu'on vient d'entendre, Daniel Auteuil,
oui,
dans le rôle du luthier.
Et la voix d'Emmanuel Béart, oui.
Vous jouez un personnage... Oui,
c'était un personnage totalement introverti qui n'avait absolument pas accès aux sentiments, mais ce qui me frappe aujourd'hui, grâce à vous, tout ce que vous me faites entendre, qui fait référence à ma vie, je m'aperçois au fond que si aujourd'hui je fais de la musique, il n'y a pas de hasard, parce que la musique m'a accompagné toute ma vie, au fond. Et ce film écrit par Claude Sautet, qui était un grand mélomane, faire entendre dans un film et à la radio comme ça, au fond, ce qu'est le cœur de la musique, ce type avait, Claude Sautet avait réellement du génie, quoi, parce que on est là au cœur même de la création artistique, le rapport entre un luthier et un interprète cette entente que eux seuls entendent et qu'ils nous feront entendre plus tard. C'est sorcier, c'est de la sorcellerie, je trouve. Hein, c'est de la magie et du travail.
Vous jouez ce luthier. Vous avez été conseillé, je crois, d'ailleurs, par un luthier, Philippe Mahut, c'est ça ?
Oui,
pour ce personnage.
Oui.
Tellement absorbé par son travail qu'il n'y a plus de place pour d'autres sentiments. Quelle place occupe la musique classique dans votre vie aujourd'hui ?
C'est, je dirais que j'ai... Elle a de plus en plus de place dans ce monde un peu fatigant et parfois un peu même vulgaire, quoi. Pas comme un refuge, mais quelque chose, pas quelque chose qui me ramène dans un passé, mais quelque chose au contraire. Écouter de la musique classique aujourd'hui, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie et qui me rend moins bête par rapport à cette époque qui peut avoir tendance parfois à nous abrutir, quoi, voilà. Donc j'écoute beaucoup, je m'aperçois que j'aime découvrir, j'écoute les radios qui passent de la musique classique. Je retiens pas les noms de tous les gens que j'aime, mais je sais que mon oreille est faite, elle s'est faite avec mes émotions et mon âme, voilà. Donc oui, j'écoute beaucoup de... Alors je dis pas que je m'installe pour écouter de la musique chez moi, parce que c'est avec j'ai un jeune enfant, tout ça, c'est dans une maison, c'est difficile de s'arrêter, il faut s'arrêter pour écouter. Alors en voiture, beaucoup en voiture, dans les voyages, maintenant on a des instruments qui permettent de mettre des trucs dans les oreilles et de s'isoler. J'écoute énormément,
ça permet de ralentir le tempo, comme dit Stéphane à la violoniste dans ce film.
Ça permet de se rassembler, de se recentrer, je dirais, et de se dire Tiens, je suis encore capable de me concentrer, d'écouter, d'apprécier, et j'allais dire de perdre du temps alors que je veux en gagner. Voilà.
Oh,
Daniel Auteuil, vous avez réalisé plusieurs films, dont La fille du puisatier en 2012, adaptation de l'œuvre de Marcel Pagnol, avec pour bande-son, pour musique, un extrait de... avec cette chanson.
Oui, Un cœur ingrat, chanté par Caruso, oui, qui est une chanson populaire napolitaine.
Reprise ensuite par Alexandre Desplat, on entend ici un arrangement. Est-ce que la voix de Caruso détient une clé du tragique?
C'est l'inventeur, c'est lui qui invente le tragique. Effectivement, je pense à la Cala, c'est-à-dire que ce sont deux voix à la fois scientifiques, parce que techniquement c'est parfait, mais à la fois il y a quelque chose de l'ordre du divin, quelque chose qui leur échappe, que leurs parents leur ont donné. C'est cette capacité à libérer leurs émotions à travers cette voix, quoi. Voilà. Et en fait, je m'aperçois qu'en écoutant ma vie grâce à vous, ma vie musicale grâce à vous depuis le début, au fond, je suis fidèle à l'enfant que j'ai été, qui à 4 ans recevait ses sons pour la première fois dans son corps, dans sa tête, et c'est, je pense que Puccini, que Verdi, que ces gens-là m'ont marqué à vie, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, il y en aura d'autres, mais ces opéras populaires voilà, c'est ce qui m'a été déposé en moi et qui fait que j'ai cette sensibilité aujourd'hui, quoi. Enfin, toute ma vie j'ai eu cette sensibilité. Ça vient de là, de la musique, l'importance de la musique et
de certaines voix aussi.
Oui, de la voix, oui. Et que serions-nous effectivement sans un monde sans musique? Ça serait terrible.
Que dit la musique dans un film, vous qui avez employé cette chanson napolitaine dans La fille du puisatier?
Alors, il y a
comment l'employer?
Il faut pas l'employer pour souligner quelque chose qui a été dit, mais pour révéler quelque chose qui n'a pas été dit. Et c'est ça qui provoque l'émotion. C'est ce que j'essaye de faire, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que les acteurs retiennent, ce que les personnages retiennent. C'est la musique qui va nous le faire entendre. On peut pas dire mieux. Je suis assez content de ce que je viens de vous dire, bien sûr.
Thank you.
Gauthier Capuçon, Renaud Capuçon et leur grande sœur Aude Capuçon dans cette marche miniature viennoise de Kreisler. Gauthier Capuçon, que vous connaissez, que vous soutenez.
Oui, et avec qui je partagerai l'affiche, figurez-vous, le 10 janvier à 20h avec l'association Orchestre à l'école au chapiteau du cirque Phénix à Malakoff, et où nous jouerons avec les enfants et ensuite nous donnerons chacun notre spectacle. Tout ça pour l'association Orchestre à l'école.
Voilà. Donc vous êtes dans une forme de transmission de la musique.
Finalement, oui, voilà.
On peut venir vous applaudir sur scène pour votre spectacle Déjeuner en l'air.
Oui, spectacle musical là où j'interprète les chansons de l'album et d'autres, et où je dis des textes.
Et puis plusieurs films aussi à l'affiche.
Oui. Je le dis, puis j'en profite, je serai le 11 et le 12 février au Trianon à Paris, et le 11 janvier, il y aura Adieu Monsieur Hapman, un film de Monsieur Cavaillé qui sortira, voilà.
Un grand merci, Daniel Auteuil, d'être venu dans ce studio.
Madame, c'est moi, vous m'avez fait remonter à des temps, vous m'avez fait remonter au XXe siècle avec beaucoup, beaucoup d'émotions, je vous remercie.
Merci pour tous ces partages musicaux. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à ce Musique et moi, Julien Doumain, à la technique, Marie Grou à la réalisation, Nelly Portal et Marie Ferdinand, attachée de production. Passez un très bon dimanche sur France Musique, bien évidemment, et la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.